Quel vilain temps pour Moïse! D'abord, c'est une rébellion du peuple après l'autre, et puis, entre deux orages, au lieu d'une accalmie, voilà que son frère et sa sœur s'en prennent à lui. En réalité, ils sont tous deux jaloux de l'autorité dont jouit leur frère cadet auprès du peuple. Ils veulent une part du gâteau. Cela vous est-il arrivé qu'on vous en veuille par jalousie? Qu'on vous fasse un croc en jambe et que vous preniez une gamelle? À moi, oui. C'est fort désagréable parce qu'en général, on ne s'y attend pas du tout. C'était le cas de Moïse qui n'a rien vu venir parce qu'il était humble de cœur. Il portait sur lui l'image du Messie, le prophète qui viendrait. C'est d'ailleurs ce que Dieu annonce et qui est rapporté vers la fin des livres de la loi. Je lis le passage. « Je vais leur susciter un prophète comme toi, l'un de leurs compatriotes. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur transmettra tout ce que je lui ordonnerai. » Fin de citation. D'une part, Moïse est un précurseur de Jésus par sa relation intime avec Dieu et son ministère de libérateur et dirigeant du peuple. Mais d'autre part, il l'est aussi par son caractère humble, annonçant ainsi la miséricorde à venir du Fils de Dieu. En effet, dans un des évangiles, voici ce que dit Jésus en parlant de lui-même. « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. » Fin de citation. Le continue le texte. L'Éternel se mit en colère contre eux et il se retira. À peine la nuée avait-elle quitté la tente que Myriam se trouva couverte d'une lèpre blanche comme la neige. Quand Aaron se tourna vers Myriam, il vit qu'elle était lépreuse. Versets 9 à 10. On dirait qu'au fur et à mesure que l'Éternel récapitule la culpabilité de Myriam et d'Aaron, ce qu'il vient de faire, il s'indigne davantage, au point que sa colère, jusqu'ici contenue, finalement éclate. Il s'en va, mécontent, retourne se placer au-dessus du lieu très saint où il réside habituellement et frappe Myriam de lèpre. Je continue. Alors, Aaron dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous tiens pas rigueur du péché que nous avons commis dans un moment de folie. Ah, que notre sœur ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la moitié du corps se trouve déjà en état de putréfaction au moment de sa naissance. » Versets 11 à 12. Aaron est épouvanté et craint que malgré sa charge de grand prêtre, il soit lui aussi frappé comme sa sœur Myriam. Il n'a pas été directement puni comme sa sœur parce qu'il s'est laissé entraîner par elle. Il s'est montré influençable et faible de caractère une nouvelle fois. Il est pathétique. De plus, il a rapidement reconnu et confessé sa faute. Il reconnaît maintenant, sans arrière-pensée, la supériorité absolue de son frère. Il est humilié, et bien qu'il soit le grand prêtre d'Israël, il se voit dans l'obligation de demander la médiation de son jeune frère. Connaissant la magnanimité, la générosité, la bienveillance de Moïse, il s'adresse à lui pour qu'il soit son intercesseur et celui de sa sœur. Il sait aussi que le pardon de Dieu dépendra de celui de son frère. Je finis ce chapitre. Moïse implora l'Éternel, « Ô Dieu, je t'en prie, guéris-la. » Mais l'Éternel lui répondit, « Si son père lui avait craché au visage, n'emporterait-elle pas la honte pendant 7 jours? Qu'elle soit exclue du camp pendant 7 jours, après quoi elle sera réadmise parmi vous. » Myriam fut donc exclue du camp pour 7 jours, et le peuple ne leva le camp que lorsqu'elle y eut été réintégrée. Après cela, ils quittèrent Hatséroth et campèrent dans le désert de Paran. Verset 13 à 16. Cracher au visage était un outrage sévère. Myriam doit subir 7 jours d'exclusion humiliante pour lui apprendre les bonnes manières. C'est pour elle un temps de profonde repentance, de retour sur elle-même. Il correspond aussi à la période pendant laquelle quelqu'un susceptible d'être rituellement impur à cause d'une maladie était placé en observation. Dur, le départ d'Israël depuis le Sinaï. Depuis qu'il s'est mis en marche, les choses ont radicalement changé. Tant que le peuple en était au stade de la préparation, l'harmonie, l'ordre et l'obéissance régnaient dans le camp. Mais toute cette bonne volonté a cédé le pas au gémissement et à la rébellion. Le peuple est entraîné à se plaindre par le ramassis d'étrangers qui demeurent avec lui. En méprisant la manne, il rejette aussi la bienveillance divine. Il va même jusqu'à regretter la libération d'Égypte en exprimant le désir d'y retourner. Devant tant d'ingratitude, l'Éternel doit juger sévèrement Israël. Moïse, en proie à la critique, continue malgré tout d'assumer son rôle de médiateur et d'intercesseur, mais il est proche de vaciller. Dieu lui adjoint alors de l'aide quand, soudainement, ses frères et sœurs contestent son autorité. Dieu intervient personnellement et juge une nouvelle fois. Le texte souligne avec force la manifestation de la colère et de la justice de l'Éternel. Et nous voici arrivés au chapitre 13 du livre des Nombres, un passage qui raconte la mission des 12 espions qui allèrent explorer la terre promise et le rapport qu'ils en firent. Ce passage est triste car il amorce une des pages les plus déprimantes de l'histoire du peuple d'Israël. Je commence à lire. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Tu peux envoyer des hommes, un de chaque tribu, choisis parmi les chefs pour explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. » Verset 1 à 2. D'après ce texte, Moïse obéit à un ordre divin en envoyant des espions parcourir le pays. En fait, cette directive divine constitue une réponse à une demande du peuple d'Israël. Celui-ci avait pourtant, là encore, l'occasion d'obéir sans chercher midi à 14 heures, en s'en remettant entièrement à Dieu. Mais non, les Israélites ne lui faisaient pas confiance et ont voulu prendre les choses en main, envoyer des éclaireurs pour voir exactement où ils mettaient les pieds afin de prendre leurs dispositions, assurer leurs arrières et tout et tout. Un autre récit de cet événement présente les faits de la façon suivante. Je le lis et c'est Moïse qui raconte. « Après cela, nous sommes partis du mont Sinaï. Nous avons traversé tout ce vaste et terrible désert que vous avez vu, en nous dirigeant vers la montagne des Amoréens, comme l'Éternel, notre Dieu, nous l'avait ordonné. Et nous sommes arrivés à Kadesh Barnéa. Je vous ai dit alors, vous voilà arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Regardez, l'Éternel, votre Dieu, met le pays à votre disposition. Allez-y et prenez-en possession, comme l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous l'a dit. N'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer. Alors vous êtes tous venus me trouver pour me dire, nous voudrions envoyer quelques hommes en avant pour qu'ils fassent pour nous une reconnaissance du pays et qu'ils nous renseignent sur la route que nous devons prendre et sur les villes où nous devons aller. La proposition m'a paru bonne et j'ai pris 12 hommes d'entre vous, un par tribu. » Fin de citation. Donc, après que les anciens du peuple soient venus faire leur demande d'envoyer des espions, Moïse, avant d'accéder à leur requête, la soumet à l'Éternel, ce qui est tout à fait compréhensible. Dieu lui a littéralement répondu, envoie-toi, ou en bon français, tu peux envoyer des hommes. Dans le sens, d'accord, je veux bien, mais j'aurais préféré qu'ils me fassent confiance. Les responsables d'Israël ne voulaient pas une exploration du pays pour des raisons militaires, mais cherchaient avant tout à encourager le peuple grâce à un rapport favorable, une confirmation des richesses de cette région, un pays supposé ruisselant de lait et de miel. Je continue le texte. Moïse envoya des hommes depuis le désert de Paran comme l'Éternel le lui avait demandé. C'étaient tous des chefs des Israélites. Voici leurs noms, versets 3 à 4. Suit alors une liste de noms de 12 jeunes hommes vigoureux, reconnus et approuvés par leur clan. Ils sont donc partis en reconnaissance. La tribu de Lévi n'est pas mentionnée puisqu'il s'agissait d'une expédition à caractère militaire, ce qui donc ne les concernait pas. Les seuls représentants tribaux de cette liste qui perdureront sont d'une part Josué, l'aide de camp de Moïse et chef de file de la tribu d'Éphraïm, et d'autre part Caleb, qui est envoyé par la tribu de Juda. Il est intéressant de noter que ce dernier était kénisien, c'est-à-dire issu d'une peuplade qui n'a rien à voir avec Israël. Cela veut dire que Moïse, avec l'accord de l'Éternel, balayait large en ce qui concernait l'admission d'étrangers dans la nation d'Israël. Josué et Caleb furent la voix minoritaire lorsque les 12 revinrent faire leur rapport. Je continue un peu plus loin. Moïse les envoya donc pour reconnaître le pays de Canaan en leur disant « Passez par le Négev, gagnez la région montagneuse et examinez le pays. Voyez comment il se présente et quel peuple l'habite. Observez s'il est fort ou faible, nombreux ou pas. » Voyez de quel genre est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, et comment sont les villes, si elles sont ouvertes ou fortifiées. La terre est-elle fertile ou pauvre? Y trouve-t-on des arbres ou non? Ayez du courage et rapportez des fruits du pays. C'était en effet l'époque des premiers raisins, versets 17 à 20. Ce détail que nous donne le texte, c'était l'époque des premiers raisins détermine le moment de l'année où eut lieu cette exploration. En effet, en Palestine, les vendanges se font en septembre, mais on a déjà des raisins mûrs au mois d'août et même à la fin juillet. Ce détail en passant s'accorde bien avec le fait que le peuple avait célébré la Pâque peu avant leur départ du mont Sinaï. Les espions vont d'abord passer par la région du Négev, ce qui signifie « terre desséchée ». Aujourd'hui, ce n'est qu'une steppe couverte de pâturages ou de buissons. Mais au temps de Moïse, elle était très peuplée. Le livre de Josué, qui est le sixième de l'Ancien Testament, énumère 29 villes avec leurs villages situés dans cette région. Je continue tout en abrégeant. Ainsi ces hommes partirent et explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, près de Lebo Hamat. Ils montèrent dans le Négev et parvinrent à Hébron, où vivaient les descendants d'Anak. Hébron avait été fondé 7 ans avant une autre ville qui s'appelle Tanis en Égypte, versets 21 à 22. Je mets beaucoup de noms qui ne veulent rien dire, ni pour vous, ni pour moi. Cependant, ils prouvent bien que les textes sacrés sont enracinés dans l'histoire humaine, ce qui fait que les lieux géographiques sont importants. Pour comprendre le texte, il suffit de savoir que les espions partirent ensemble du sud-ouest de la mer Morte. D'après d'autres textes parallèles, leur ordre de mission et le rapport détaillé qu'ils firent à leur retour, il est évident que les 12 espions se divisèrent en plusieurs groupes, probablement de 2 hommes chacun. Ils se répartirent alors les différentes régions du pays à visiter, puis se donnèrent rendez-vous à un lieu de rassemblement avant de revenir tous ensemble. Ceux qui allèrent jusqu'à 200 kilomètres au nord de la ville de Damas, en Syrie, dans ce qui est le Liban aujourd'hui, n'ont pas dû traîner et faire de causette en route. Ils firent en effet un périple de quelque 800 kilomètres aller-retour. En tout, les 12 hommes passèrent 40 jours à explorer le pays. Dans tous les noms qui nous sont donnés, celui d'Anak est important. Ce sont les premiers habitants de Canaan, et ils sont décrits comme des géants qui ont terrorisé ceux qui les ont vus. Hébron, située au sud de Jérusalem, était une cité bien connue des patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Elle est fréquemment mentionnée dans le livre de la Genèse. Les explorateurs furent surpris par sa grandeur et l'importance de ses fortifications. Je continue. Arrivés dans la vallée d'Eshkol, qui veut dire « vallée de la grappe », ils coupèrent un sarment de vigne portant une grappe de raisin si lourde qu'ils durent la porter à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. C'est depuis lors qu'on a nommé ce lieu la vallée d'Eshkol, ou vallée de la grappe, en souvenir de la grappe de raisin que les Israélites y avaient coupée. Au bout de 40 jours, ils furent de retour de leur exploration du pays. Versets 23-25. La vallée située entre la ville d'Hébron et Jérusalem est bordée de collines toutes couvertes de vignobles et qui produisent les plus beaux raisins du pays, une grappe pouvant atteindre jusqu'à 6 kilos à ce qu'il paraît. Je continue. Ils vinrent trouver Moïse et Aaron et toute la communauté des Israélites dans le désert de Paran à Kadesh. Ils leur rendirent compte de leur expédition et leur montrèrent les fruits du pays. Voici le rapport qu'ils firent à Moïse. « Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel, et en voici les fruits. » Seulement, le peuple qui l'habite est terriblement fort. Les villes sont d'immenses forteresses. Et nous avons même vu les descendants d'Anak. Les Amalécites occupent la région du Négev. Les Hittites, les Yérébusiens et les Araméens tiennent la montagne et les Cananéens occupent le littoral de la Méditerranée et toute la vallée du Jourdain. Versets 26 à 29. Kadesh est en plein désert, loin au sud de la Palestine. C'est là que se trouve le peuple d'Israël. Et c'est à cet endroit que sont revenus les espions pour faire leur rapport à Moïse et aux hommes de guerre. La mention de ces nombreuses peuplades bien implantées effraie le peuple qui commence déjà à murmurer. Je continue jusqu'à la fin du chapitre. Alors, Caleb essaya de faire taire le peuple qui commençait à s'en prendre à Moïse. Il lui dit, « Allons-y, faisons la conquête de ce pays, car nous en sommes vraiment capables. » Mais les hommes qui l'avaient accompagné disaient, « Nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple, car il est plus fort que nous. » Puis ils se mirent à décrier le pays qu'ils avaient exploré devant les Israélites en disant « Le pays que nous avons parcouru et exploré est une terre qui consume ses habitants. Quant à la population que nous y avons vue, ce sont tous des gens très grands. Nous y avons même vu des géants, des descendants d'Anak, de cette race de géants. À côté d'eux, nous avions l'impression d'être comme des sauterelles, et c'est bien l'effet que nous leur faisions. » Versets 30 à 33. Caleb ne conteste pas la vérité des renseignements fournis par les autres espions, mais il rejette les conséquences fâcheuses qu'ils en tirent. Lui il y croit et est prêt à foncer. Les géants, appelés Néphilim en hébreu, sont également mentionnés dans le livre de la Genèse, avant le jugement du déluge. Ce passage que je viens de lire ne mentionne pas Josué, qui n'a sans doute rien dit parce qu'il est étroitement associé à Moïse, étant son aide de camp. Mais on sait que lui aussi, il était prêt à conquérir le pays, croyant que l'Éternel leur donnerait la victoire. Les 10 autres espions souffrent de la sauterellose, ou l'effet sauterelle. Ils ont une peur bleue qui les rapétisse et en même temps qui grossit la force de leurs adversaires. Les 12 avaient essentiellement constaté les mêmes choses, mais leur interprétation était différente selon qu'ils prenaient ou pas Dieu en compte. 2 firent un rapport qui était inspiré par la foi. Ils reconnaissaient que les difficultés étaient réelles, mais croyaient que l'Éternel leur accorderait la victoire, même contre des géants. Les 10 autres firent le plus de bruit. Ils étaient inspirés par la crainte et l'incrédulité et raisonnaient en termes purement logiques. Ils ont essentiellement dit que la conquête du pays était impossible et qu'il serait battu d'avance. Quant au peuple, au vu de sa conduite passée, on se doute qu'il penchera du côté de ceux qui ne croient pas que Dieu peut les aider. Je conclus ce triste chapitre en lisant un petit verset du Nouveau Testament qui est tout à fait pertinent et qui dit « La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi ». Et sur ces paroles, je termine pour aujourd'hui.